Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Immobilier avec Romain Pérez. Je suis très content et excité à l'idée de partager cet épisode avec vous. On va parler de plein de choses, création d'agence, parcours immobilier à Paris, le marché actuel, comment il a pu évoluer. Si vous êtes agent immobilier, que vous avez l'ambition éventuellement de créer votre agence ou de devenir agent immobilier, je pense que vous allez kiffer cet épisode. Pour parler de ça, j'ai le plaisir d'avoir non pas un, mais deux invités avec moi puisqu'ils ont créé leur agence ensemble, Laetitia et Dan Adler. Bonjour et merci à vous deux d'être là.
Bonjour,
Bonjour.
merci de nous interviewer.
C'est un plaisir. On se connaît un peu. J'ai eu la chance de travailler avec vos équipes. Ceux qui savent pas forcément qui écoutent, je fais des vidéos sur l'immobilier et j'ai eu la chance de venir à Paris et de tourner avec vos agents immobiliers et notamment votre service de com. Mais on n'avait pas pu se rencontrer en fait, hein, parce que la journée était
Exactement. T'as un peu à
trop
droite à
speed.
gauche chez toi aussi.
Ouais. Et donc ça me fait super plaisir de pouvoir échanger un peu avec vous aujourd'hui sur l'immobilier. Donc, pour attaquer déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites?
Eh bien, Dan Adler, Laetitia Adler, associée et mari et femme. On a ouvert notre agence, enfin notre groupe, il y a maintenant 10 ans, c'est
Ouais,
ça, hein,
10 ans
10
pile
ans.
quoi.
Ah oui.
Voilà, et au bout de 10 ans, du coup, on s'est développé. Maintenant, on a 8 agences sur la rive gauche. On regroupe tous les corps de métier sur l'immobilier, donc la transaction, location, gestion. Tout ce qui est mur et commerce d'entreprise. Et voilà, donc on a aujourd'hui 40, à peu près, un peu plus de 40 collaborateurs qui travaillent avec nous. Donc on est très très fiers parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aussi aujourd'hui. Et voilà, en termes de présentation, si tu veux rajouter quelque chose?
Non, c'est à peu près bien résumé. En gros, tu as dit l'essentiel.
Merci.
Déjà, merci aussi, je tiens à le dire, de nous accueillir. Et puis, libre à toi de nous poser des questions. C'est vrai que notre parcours, il est assez sympa parce qu'il est atypique. Juste pour nous présenter rapidement, je vais en profiter. On faisait déjà de l'immobilier avant de créer notre groupe. Et quand on a créé notre groupe, en fait, souvent on nous pose la question, pourquoi vous avez créé cette marque? Comment vous avez créé cette marque? Je ne sais pas si j'anticipe un peu tes questions.
Exactement, mais allez, on y va.
Ok. Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, on travaillait déjà dans l'immobilier. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans une agence. On travaillait pour un réseau, pour un groupe. Et en fait, la philosophie de notre marque, pourquoi on a voulu créer De Faire l'immobilier, c'est qu'en fait, on voulait vraiment prendre tous les avantages des réseaux sans les inconvénients et tous les avantages des agences indépendantes haut de gamme sans les inconvénients. Et en fait, on a fait un petit peu
Remix.
un remix de tout ça pour arriver à avoir une marque vraiment performante sur Paris où on peut se faire plaisir, mais qui répond vraiment aux attentes de la clientèle parisienne, notamment des acheteurs qui étaient un peu délaissés dans la nature. En tout cas, c'était le retour qu'on avait. Et puis avoir un service vraiment haut de gamme pour les vendeurs également, et vraiment adapté à tout type d'appartement. Donc ça, c'est un peu la philosophie de base du groupe. Et puis après, il y a notre philosophie personnelle. On voulait vraiment créer un groupe qui nous ressemble, avec des jeunes, où c'est assez dynamique, où il y a une vraie ambiance, et où tout le monde gagne bien sa vie. Donc c'est vrai que Laetitia, tu as dit, voilà, on a 40 collaborateurs
Ouais, c'est énorme.
actifs, donc dans la prod, mais après, on a tous les postes fixes aussi. En tout, là, dans le groupe, on n'est pas loin de 60, en fait, parce que si on rajoute les conseillers location, conseillers immobiliers d'entreprise, plus toutes nos assistantes qui sont là à temps plein, en fait, on n'est pas loin de 60 dans le groupe. Donc, c'est vrai que c'est sympa, parce que en l'espace de 10 ans, on a réussi à ouvrir chaque année, tous les 2 ans, une agence. On a réussi à vraiment s'implanter sur Paris. Et surtout, on s'éclate vraiment.
Ok, bon, bah, génial. On va, voilà, vous avez devancé pas mal de questions tous les deux, mais on va revenir de toute
La
façon
prendre
tranquillement, voilà, en profondeur. Donc, vous créez ça il y a à peu près 10 ans. Vous me dites que vous étiez dans l'immobilier, si j'ai cru comprendre. Mandataire, c'est ça? Vous étiez mandataire l'un et l'autre ou
Non,
non?
j'ai chez
Ok.
521 en fait.
Ok. Bon, parfait. Comme j'entendais beaucoup réseau, tout ça. Donc, vous décidez de créer votre agence. Vous avez dit, hein, pour réunir tout ça, mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? C'est l'envie vraiment de créer quelque chose, l'esprit entrepreneurial, ou est-ce que c'est parce que vous étiez pas forcément satisfait de ce que vous aviez
On a
chacun de votre côté?
tous les deux des
Des
vecteurs un peu
réponses,
différents et vas-y,
Je sais ce que toi tu vas répondre, donc je vais répondre. Enfin, il y avait un moteur très très fort, c'était d'avoir notre propre identité. Okay. Parce qu'on s'est posé quand même la question à savoir est-ce qu'on va vers un réseau qui peut être rassurant pour des jeunes. Oui. Parce que quand on a ouvert, Dan il avait 27 ans, moi j'en avais 30, enfin à peu près ça. Et donc du coup ça peut être très très rassurant de passer par un réseau. Après nous c'est vrai que on avait vraiment envie de développer une image forte qui nous ressemble et c'est pour ça qu'on a décidé vraiment d'ouvrir notre propre marque, ce qui n'a pas été évident au départ hein, parce que même pour être suivi au niveau des banques ça a été très compliqué au départ. Ils étaient plus favorables à ce qu'on ouvre un réseau, c'était plus rassurant aussi pour eux, mais avec notre force de persuasion et quand on a montré nos chiffres et de quoi on était capable, ils nous ont suivis sur notre propre marque. Et il y a aussi effectivement, Medan va développer l'envie d'entreprendre et de développer quelque chose de très très fort et de très très grand.
Okay. Ouais, c'est ça. En fait, moi déjà, je voulais, titre perso, je voulais depuis très longtemps avoir ma boîte. Après, c'est sûr que j'ai rencontré les tiens, on a les mêmes idées, on a la même vision. Et surtout, quand un a un doute, l'autre arrive à le rassurer. Et que ça marche vraiment très bien, ça, entre nous. Donc, c'est génial. Parce que du coup, c'est devenu une évidence. Quand on a ouvert la première boutique, avant de créer la première agence, on savait déjà qu'on allait se développer. Parce qu'en fait, c'est comme si on arrive avec un business plan sur 10 ans. Et on dit, au bout de 10 ans, on veut au moins 6, 7 ou 8 agences qui seront implantées à tel endroit. Et quand on a été voir les banquiers, en fait, on leur a tout exposé de A à Z en leur disant, on va développer tel chiffre d'affaires parce qu'on connaît le marché, parce qu'on sait comment il faut faire, etc., etc. Donc, pour nous, c'était assez limpide. Il n'y a pas eu vraiment de questionnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a entrepris la démarche d'avancer, les risques ne nous ont pas vraiment fait peur parce qu'en fait, on s'est engagé en tant qu'indépendant en prenant tout de suite une très belle boutique avec un loyer très élevé, en fait, avec des risques, au final, qui étaient importants. Tout le monde nous disait, mais vous êtes des fous, vous lancez dans l'immobilier à cette période, avec des loyers aussi importants pour une première boutique, pour une marque qui n'est pas connue sur Paris, c'est suicidaire. Mais en fait, ça a passé par une oreille, ça ressortait par l'autre. C'est plus des vecteurs de motivation qu'autre chose, parce que quand on est certain d'y arriver, il n'y a rien qui pouvait nous démotiver. Et donc, au final, on se souviendra toujours de la première image quand on nous a mis l'enseigne sur notre boutique. On l'a vue au loin, on s'est dit « Ah ouais !»
On est des fous. On est des malades.
Et à la fin, on était excités. Et on a eu raison parce qu'au final, au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment ce côté où on s'éclate. On est complètement libre de notre communication, de notre marketing. On est libre de travailler avec qui on veut, avec des gens qu'on apprécie. Donc, c'est un luxe. Au-delà de l'aspect financier, encore une fois, que je recommande à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, parce que de se lever le matin, d'aller dans son entreprise et de dire « tous les gens que je vois, je les aime bien parce que j'ai ce luxe de pouvoir quelque part prendre des gens qui nous ressemblent, avec qui on va vraiment pouvoir échanger, avoir le même but », c'est génial. Donc voilà un petit peu les axes de motivation. Il y a beaucoup d'axes aussi humains, quoi. C'est-à-dire quand on ouvre une boîte, on se dit pas tout de suite, tiens, je vais gagner tant, l'année prochaine, je vais gagner tant. En fait, on réfléchit pas comme ça. On sait que, en faisant ce qu'il faut, on gagnera bien notre vie. On n'arrive pas à mettre un chiffre, mais on sait que tout ce qu'il y a autour, ça va être vraiment, une vraie qualité de vie. Et pour nous, c'est super important. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre aussi à nos collaborateurs. La qualité de vie, l'ambiance de travail, elle est super importante. Et pour nous, c'est une réussite.
Mais il y a un truc que tu as dit, toi, Dan, c'est... En fait, tu as dit, quand on est sûr des chiffres qu'on peut faire, tout ça, c'est une évidence. Donc, vous aviez pas forcément peur. C'était une de mes questions. Est-ce que vous aviez peur? Est-ce qu'il y avait des doutes? Il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce qui vous donne, en fait, cette confiance? Est-ce que c'est parce que vous aviez une expérience et que vous aviez des chiffres individuels de nombre de ventes, de chiffre d'affaires, et du coup vous aviez la confiance, ou qu'est-ce qui vous donne cette confiance? Parce que souvent les gens, ils ont peur, ils hésitent, ils disent ah mais si ça marche pas trop, surtout de prendre, ce que vous avez dit, une grosse boutique, qu'est-ce qui vous donne cet état d'esprit?
De toute manière on avait peur, on va pas se mentir, et la peur ça permet aussi de bien réfléchir et de bien anticiper tous les risques. Après, on a une grosse confiance en nous malgré tout. On produisait beaucoup de chiffres d'affaires. Chez Century, on tournait à peu près à 300 000 euros de chiffre d'affaires à chacun. Ouais. Donc, du coup, on savait qu'on avait un potentiel qui nous permettait de rebondir correctement. On avait aussi des gens de confiance avec qui on s'est lancé, qui ont fait partie de l'aventure. Et effectivement, si, il y avait des risques, forcément. Hein. Il y a quelques nuits, on les a passées un peu blanches. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'était sur des choses qui étaient encore inexistantes. C'était pas palpable, c'était pas factuel. Et après, on avait tellement de force commerciale, on avait tellement de dynamisme commercial juste tous les deux. On était certains que de toute manière, le chiffre d'affaires, il allait tomber. Donc,
quand on crée une entreprise, c'est marrant parce qu'on apprend aussi un nouveau métier, c'est le métier de gestionnaire, on va dire, gérer sa boîte, gérer les finances et tout ça. Et au final, cette phase-là, on en avait tellement peur parce que tous les deux, on est des vrais commerciaux. Du coup, on a bien anticipé les choses. Ouais. C'est-à-dire, on connaissait un petit peu notre travers, entre guillemets. Et du coup, notre business plan, il était complètement nickel. Il était sécurisé sur plusieurs mois. On avait mis l'argent qu'il fallait de côté parce que tout ce qu'on a fait, c'est grâce à ce qu'on a gagné. On n'avait pas un euro en poche quand on a commencé le métier d'agent immobilier. Et au final, on s'est créé par nous-mêmes. Et donc, tellement les gens nous disaient « Attention, vous êtes des fous !» que du coup, on s'est dit « Si on ne fait pas de chiffre pendant 6 mois, quoi qu'il arrive, on sait que la boîte, elle tourne encore. » Et on a cette soupape de sécurité. Donc du coup, on avait bien anticipé les choses. Là où Laetitia a raison, c'est qu'on connaissait le métier. Ça faisait un moment qu'on était conseiller, manager, qu'on chapeautait une équipe. Donc du coup, on savait comment faire réussir. Et surtout, on avait tellement d'idées pour faire mieux qu'on se disait que ce qu'on faisait comme chiffre d'affaires, en fait, c'était bien dans ce groupe-là, mais chez nous, ça devrait être la norme. Et donc, en fait, on savait qu'en fait, le potentiel était beaucoup plus élevé. D'ailleurs, on le voit, l'année dernière, l'un de nos meilleurs conseillers, il fait 481 000 euros hors taxes, une année qui est difficile pour la plupart des agents immobiliers sur Paris. Chez nous, on a un conseiller qui sort à quasiment 500 hors taxes. Et cette année, c'est certain qu'on va avoir au moins 2 conseillers ou 3 à plus de 500 000 euros hors taxes, parce que quand je vois le début de l'année, donc ce que je veux dire, c'est que ce potentiel, on l'a multiplié et on savait qu'on arriverait à faire plus. Parce que on savait que ce qui marchait, on allait le garder, mais que ce qui ne fonctionnait pas, on allait faire en sorte que justement ça fonctionne. Et donc du coup, oui, il y a eu du stress, mais au final, le stress,
il est excitant.
Il n'était pas lié sur la réussite de l'entreprise, il était plus lié à notre façon de vivre à titre perso, parce que tous les deux, on était engagés dedans. On aime bien se faire plaisir et forcément au début il faut tout restreindre parce que le seul objectif c'est payer les salaires, payer les loyers et faire en sorte que aucun de nos conseillers ressente le moindre stress. Donc voilà, la peur a été, en moi en tout cas à titre perso, a été plus par rapport à ça que sur la réussite du projet.
Ouais, et puis en plus l'analyse elle a été bonne aussi sur un point, c'est que lorsqu'on a décidé de s'implanter dans le 14e arrondissement, quand on a fait notre business plan, on a vu qu'il n'y avait pas d'agence haut de gamme et que tous les appartements, les très beaux appartements, ils finissaient sur des marchés de report comme le 5e et le 6e arrondissement. Et quand on a analysé ça, on s'est dit, mais c'est pas possible en fait. Il y a un vrai marché à prendre sur le 14e. Et quand on a commencé à développer notre image, à faire notre com, à faire notre publicité sur le 14e arrondissement, tout de suite, on a commencé à s'imposer comme l'agence incontournable du 14e sur tous les biens haut de gamme. Et ça, pareil, c'était hyper rassurant parce qu'on s'est dit, il y a un vrai marché à prendre là-dessus.
Vous aviez à peu près combien d'années d'expérience en tant qu'agent immobilier ou manager
7 ou 8 ans, je crois.
Ok, donc déjà pas
et
mal.
Et moi, j'avais pas grand-chose. Moi, j'ai commencé, je crois que j'avais 2 ans, quelque chose comme ça.
2 bonnes années, mais dès la première année, elle avait fait 300 000.
Mais avant, j'avais un gros passé commercial, en fait. Hein. Donc ça m'a beaucoup aidé.
Quand vous lancez de faire là, le nom d'ailleurs vient d'où? C'est vos noms, le nom de famille, c'est ça?
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai tendance à dire tout le temps quand on me pose la question, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les marques de luxe. Donc, je dis toujours à mon mari de me laisser dépenser dans les belles marques. Ça aide. Et du coup, en fait, je voulais que ça regroupe un peu nos deux noms. Moi, Kay Fergan, mon nom de jeune fille, et Adler pour Dan. Et du coup, voilà, je voulais un nom à particules, un petit peu pour inspirer, pour que les gens comprennent vite en fait que c'est une agence haut de gamme. Et voilà, donc du coup, en cherchant un soir à griffonner, et du coup, je suis tombée là-dessus. Et je dis à Dan, je fais alors, qu'est-ce que tu penses de faire là? Est-ce que ça te parle et tout? Et tout de suite, il a eu un coup de cœur dessus, et on s'est dit, allez, vas-y, on part là-dessus. Et on s'est lancé, quoi.
Ok, ouais, génial. Un mélange un peu de noms. Super, original. Et quand vous attaquez, donc il y a vous deux, et est-ce que vous avez déjà du monde en tête, vous avez déjà des connaissances éventuellement dans le milieu des commerciaux?
Alors, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on est parti notre ancienne agence, ça a été un peu, pas complexe, mais on est parti, on représentait un gros chiffre d'affaires, et surtout, entre guillemets, on avait des gens qui adoraient travailler avec nous. Donc nous, au début, on a dit, on prend personne, on fait notre aventure, et vous restez. Ils sont tous venus en nous disant, non, mais de toute façon, on démissionne, on s'en fout, on part. Quoi qu'il arrive, au début, on avait dit que on était, enfin, bon, bah, c'est plaisant. En plus, il y en avait, c'était des amis qu'on avait amenés dans l'ancienne boîte, d'autres qu'on a appris à connaître, etc. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a tracé notre chemin. Et au final, ils sont venus nous voir en disant, voilà, bah, on a démissionné. Donc, de toute façon, soit vous nous prenez, soit de toute façon, on continue pas là. Donc, on a pris, il y a eu un ami d'enfance qui est venu avec moi, plus un de nos meilleurs amis qui est venu. Et ensuite, en fait, l'aventure, elle s'est faite comme ça, une assistante aussi qu'on connaissait. L'aventure s'est faite comme ça. Au début, on n'avait pas prévu de prendre autant de monde parce que ça faisait des charges un peu plus élevées que ce qu'on pensait.
Oui.
Mais voilà, quand vous avez des gens que vous appréciez, ils viennent, ils vous disent, on a démissionné, c'est chez vous, on arrête l'IMO. Bon, voilà, on s'est regardé, on s'est dit, on revoit un peu le business plan, on met de l'argent. On voit, mais on se voyait pas ne pas les prendre. On les a pris, ça a matché tout de suite. Ça a été au début une nouvelle expérience parce qu'on est passé de manager, on va dire, salarié à patron. Mais au final, ça a été limpide. Ça nous a beaucoup aidé aussi au début. Et ça a été que du bonheur. Et puis après, bon, on avait prévu de recruter une personne à telle période ou quand on ferait tant de chiffres. Au final, ça a été plus que prévu. Au bout d'un an, on n'était pas loin de 6 ou 7. Et puis après, au bout de 2 ans, on ouvrait la deuxième boîte, ainsi de suite.
Ouais. Et niveau chiffre d'affaires, niveau vente, il n'y a pas de période creuse au début, on va dire. Tout de suite, ça part.
Ouais, les 2 premiers mois, mais en fait, on avait mis de la trésorerie de côté qui nous permettait de pas trop stresser.
Ouais, de tenir.
Mais bon, ça a été assez vite. En plus, après, on a ouvert sur un secteur où on connaissait pas parfaitement les prix. Donc au début il y a cette phase un petit peu de réajustement pour les estimations, donc il y a eu ça, il y a eu le fait aussi de se faire connaître. Après c'est vrai que objectivement le fait d'avoir investi tout de suite sur une agence, une boutique d'angle ultra bien placée, visible, parce qu'elle est, toutes nos agences sont quand même sympas, on va dire, bon bah ça attire l'œil, ça fait rentrer des gens, donc après il suffit juste de bien faire son taf et puis de prospecter aussi sur la zone comme des fous. Et en fait, ça avait pris très, très vite. Alors ensuite, le chiffre, il a fait que évoluer dans le bon sens, quoi.
Donc, vous passez de une agence à maintenant, quoi, 8 agences, c'est ça? 8 agences en 10 ans. Pour vous, qu'est-ce qui fait, sans faire prétentieux, parce que c'est moi qui demande, mais qu'est-ce qui fait que vous réussissez, qu'il y a un énorme succès? C'est un gros succès. Comparé à, il y en a énormément qui lancent leur agence, qui créent leur agence, et forcément, enfin, ça marche pas forcément, ou alors ils survivent, ils font 4-5 ventes dans l'année. Qu'est-ce qui fait pour vous la différence? Est-ce que c'est les équipes? Est-ce que c'est une manière de penser? Est-ce que c'est le marketing? Pour vous, c'est quoi?
C'est tout, c'est un peu tout. C'est-à-dire que
ouais.
Déjà, c'est de bien, déjà d'être deux, j'avoue, c'est sécurisant. Et on peut pas faire ce métier sans la confiance. C'est-à-dire que ce soit en interne, que ce soit avec des associés, c'est hyper important. Ce qui va être important, c'est aussi, nous on est hyper exigeant. C'est-à-dire vraiment, on est très très exigeant avec nos équipes dans toutes les tâches qui va concerner la réussite dans ce métier. Les commerciaux, ils savent que on laisse rien passer. Et c'est pour leur bien, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont bien, ils réussissent chez nous, et surtout qu'ils restent longtemps. Parce qu'ils savent qu'il y a l'aspect chiffre d'affaires, mais comme disait Dan tout à l'heure, il y a l'aspect humain chez nous qui est hyper important. C'est-à-dire que un conseiller qui est pas bien dans son boulot, il fera pas d'argent. Donc ça sert à rien. Il faut être à l'écoute. Il faut savoir écouter les problèmes. C'est beaucoup, beaucoup, nous, aujourd'hui, maintenant, on est beaucoup, beaucoup dans l'écoute au niveau des commerciaux. Il y a aussi le fait de faire évoluer les gens en interne. C'est hyper important. Ça a été la clé aussi parce que on a eu des jeunes qui ont démarré à 22, 23 ans chez nous et on les a associés à 25, 26 ans. Donc, je connais pas beaucoup non plus de chefs d'entreprise qui sont capables de s'associer comme ça avec des jeunes personnes. Il y a aussi beaucoup de gens aussi, je pense, ils pensent que le métier il est évident, c'est-à-dire qu'ils ont un peu de un petit côté commercial, ils pensent qu'ils peuvent se lancer. Je pense que c'est un métier, ça on l'a souvent dit à des négos qui souhaitaient ouvrir leur propre enseigne, nous on les encourage, mais il faut quand même une expérience. Il faut vraiment avoir une vraie expérience de l'immobilier parce qu'il y a tellement de facettes différentes qu'il faut maîtriser que s'il y en a une qu'on maîtrise pas, bah déjà vous perdez 20% de chiffre d'affaires. Donc c'est indispensable de prendre le temps. Nous quand on engage par exemple des jeunes chez nous, quand ils arrivent chez nous, on dit nous on vous apprend pas un métier, on vous apprend, on vous donne une carrière. C'est-à-dire qu'il faut accepter de prendre le temps de se former, de constituer un fichier, de le travailler, de le qualifier et d'avoir des retours naturels suite à cela. Donc voilà, moi quand j'ai des jeunes par exemple qui ont arrêté les études, ils viennent chez nous, je leur dis mais c'est comme si vous repreniez un peu vos études chez nous parce que il y a le temps de la formation, il y a le temps d'acquérir toutes les compétences, il y a le temps de se peaufiner dans les négociations. Et voilà, et toutes ces choses-là vont faire que de toute manière, on va se démarquer et bah, qui fait que bah aujourd'hui je pense qu'on est serein parce que on travaille avec des gens de confiance et on est compétent dans tout ce qu'on a entrepris dans chaque facette du métier.
Et vous formez en interne quand il y a des nouvelles personnes, c'est vous un de vous deux ou alors
quand interne on veut pas prendre une personne extérieure parce que c'est notre ADN et nous on veut que les conseillers quand ils viennent chez nous, on veut qu'ils soient picousés, on veut qu'ils aient notre ADN à nous parce que on sait ce qu'on a produit et on sait ce qu'on peut donner. Donc ça sert à rien de passer par quelqu'un qui aura pas notre fibre à nous.
Ouais. Oui, bien sûr. Et c'est parce que c'est intéressant, c'est une question que je voulais poser. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent, qui m'envoient des messages, qui aimeraient être agent immobilier, qui aimeraient être agent immobilier sur Paris, qui aimeraient être éventuellement agent immobilier dans le luxe. Est-ce que déjà sur quoi est-ce que vous basez quand vous recrutez? Hein, quels critères? Parce que vous avez dit que vous étiez exigeant. Sur quoi vous basez? Et quelqu'un, admettons, qui vient. Je veux dire, quelqu'un qui viendrait, par exemple, en entretien avec un de vous deux, qu'est-ce qui va faire que vous allez dire, cette personne, je veux bien la prendre dans mon équipe, cette personne, je veux pas. Ça peut être un peu compliqué.
Qu'est-ce que vous regardez? Déjà, il y a une valeur commune chez nous, c'est le travail. C'est-à-dire que, clairement, souvent les gens, ils disent, je veux être agent immobilier, alors soit parce qu'ils ont envie de faire des visites, soit parce qu'ils ont envie de gagner beaucoup d'argent. Bon, peu importe le vecteur de motivation, là je stéréotype un petit peu, mais les vecteurs de motivation malgré tout pour être agent immobilier, c'est souvent ces deux-là en tout cas dans l'eau de la vie.
Ouais, visite et
gagner beaucoup d'argent, il n'y a pas de miracle dans la vie. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre conception, si vous ne travaillez pas comme des fous, vous n'y arriverez pas. Et donc nous, déjà, il y a l'aptitude à se faire mal, à comprendre que c'est un métier où il faut être dévoué vis-à-vis de la clientèle, c'est-à-dire que on ne peut pas réussir si on se donne pas corps et âme pour ce métier. Donc nous, c'est comme ça en tout cas qu'on voit les choses. Et donc quand on recrute quelqu'un, on veut déjà sentir cette envie de vraiment de bosser, d'être à l'écoute, de vouloir apprendre, de vouloir être à l'écoute d'un client, de vouloir conseiller un client et de vouloir toujours apporter des solutions X ou Y pour aller plus loin qu'un autre confrère qui arrêterait parce que le dossier devient un peu complexe. Nous, on veut vraiment que chaque projet soit mené à son terme de A à Z et que le client, une fois que la vente est réalisée, même s'il paye une commission qui pour certains peut paraître élevée ou pas, se dise en fait ça vaut complètement ce que j'ai payé, voire honnêtement vu votre service j'aurais même été prêt à payer si j'avais su, tellement je suis content. Donc ça, il faut qu'on arrive à détecter ça chez quelqu'un, donc c'est important. Au final, le feeling et les questions qu'on pose, on arrive assez vite à détecter déjà les gens qui sont prêts à vraiment à travailler avec une grosse densité de travail, en se faisant mal, en faisant du porte-à-porte, en faisant du phoning, en distribuant du mailing, en faisant des tâches qui peuvent paraître ingrates, mais en fait qui ne le sont pas du tout. C'est un métier où vous allez à la rencontre des gens. Donc déjà, il y a cette aptitude à vouloir vraiment aller rencontrer les gens, aller sur le terrain. Ensuite, il y a la volonté d'apprendre. Laetitia disait, on reprend l'école. Laetitia, c'est elle qui s'occupe de la formation commerciale de chaque nouveau. Elle leur fait apprendre vraiment nos outils de vente de A à Z, mais elle s'implique personnellement pour chaque collaborateur qui intègre le groupe. Elle s'implique personnellement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est elle qui les forme de façon individuelle. Donc, si on sent que la personne, elle n'est pas prête à se faire mal, à écouter, à apprendre, on switch parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 40 négos, mais on est 60 dans le groupe. On gère 60 personnes, même si on a des directeurs associés qui nous aident vraiment énormément, mais au final, on gère 60 personnes. Donc, pour qu'on forme chaque personne de façon individuelle, faut qu'on sente que vraiment la personne, elle a envie de travailler chez nous. Et ensuite, il y a aussi la cohésion d'équipe. On veut pas des loups solitaires.
Ouais, c'est ça.
S'il y a quelqu'un qui est prêt à faire 700, 800, 500 000 euros de chiffre, mais que c'est un loup solitaire et que ça va pas avec nos équipes, on n'en veut pas. On marche très bien. On veut des gens qui ont envie de s'intégrer dans un groupe, qui ont envie de profiter. On a envie de se faire plaisir. Donc voilà. En fait, les paramètres sont aussi bien humains que professionnels parce qu'il faut effectivement une envie, il faut une volonté à travailler, à s'impliquer, mais il faut que ça matche, quoi.
Ouais, donc principalement quand même beaucoup sur l'état d'esprit en fait de la personne, pas forcément des critères. Je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, notamment de réseaux de luxe qui fonctionnent au carnet d'adresses. Ils recrutent que des gens qui ont un énorme carnet d'adresses, beaucoup de connaissances.
Ah non, nous ils arrivent avec zéro client en poche. Mais non, nous ce qu'on veut, c'est juste de l'envie, de la motivation, de l'envie d'être déterminé, d'avoir envie d'en découdre, de construire une carrière. Nous, on est là juste pour leur donner les outils, mais s'ils ont pas l'essence dans le mode, enfin, s'ils ont pas l'essence dans la voiture, ça sert à rien. Donc, nous, on leur demande juste d'avoir envie, d'être motivé et d'avoir un bon état d'esprit. C'est la seule chose. D'ailleurs, on recrute jamais au CV. Quand on fait nos recrutements, quand on est en entretien, on prend pas les CV, on les regarde en diagonale et après, ça se fait vraiment au feeling avec la personne si on sent qu'elle est déterminée ou pas.
Et c'est vrai que le carnet d'adresse, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est souvent, on dit voilà ce qui compte dans le métier, mais en fait, ils vont se le constituer. Et puis honnêtement, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure quand on a créé le groupe. Bah, on voulait que tout le monde gagne bien sa vie chez nous, mais il n'y a rien de plus excitant pour nous aujourd'hui de recruter quelqu'un qui a rien, peu importe de quel milieu il vient, mais qui a pas d'expérience vraiment aboutie. On prend pas que des petits jeunes, hein, on prend aussi des gens qui ont déjà eu des expériences, mais qui sont en reconversion ou autre. Et ces gens-là, de les voir évoluer chez nous et de les voir réussir, c'est très gratifiant pour nous.
Et est-ce qu'il y a, en gros, ce que disait Laetitia, c'est, si je paraphrase un peu, c'est limite, plus ou moins n'importe qui, s'il a le bon état d'esprit, pourrait éventuellement venir, si vous le formiez, si vous machin, mais plus ou moins n'importe qui avec l'état d'esprit, vous pourriez en faire, on va dire, un très bon agent immobilier à 200 000, 150 000, ou est-ce qu'il y a quand même, il faut qu'il soit présentable, qu'il ait un côté commercial inné, qu'il ait...
Je demande. Il suffit de s'habiller en costume pour un homme et pour une femme, de s'habiller correctement aussi. Bon, ça, on leur dit.
Ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas.
C'est pas donné à tous. Des fois, on a déjà eu des gens, ils sont presque arrivés en jogging, en entretien. Bref, je te passe le truc, mais bon, voilà, ça c'est sûr. Mais ça, on leur dit, quelqu'un qui a envie, il le fait. Mais après, là où t'as raison, aller vers les gens, on peut le dire. Mais si tu vas tout le temps la boule au ventre, ça le fera pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi un minimum d'assurance. Alors on a des profils très différents. On a des profils très commerciaux. On a des profils très bosseurs, plus introvertis, mais quand même les dénominateurs communs, c'est déjà ils travaillent tous énormément. Même le plus gros des tchatchers, s'ils travaillent pas, il sert à rien. Mais on a des profils qu'on réussit, qui sont plus introvertis, mais par contre le vrai dénominateur commun, c'est quand on leur dit tu vas en prospection ou tu fais ça, ils y vont.
Ouais, c'est ça.
Ils y vont pas la peur, parce qu'on a déjà eu des profils qui justement, on s'est dit bon, il présente bien, il parle bien, il a une bonne élocution, mais on sent qu'il y a une forme de réticence à aller dans la rue, à tendre la main, un peu trop poli entre guillemets, tout le monde est poli, mais je dis par là que le fait d'y aller un petit peu au culot, si t'as trop de
réticence, ne pas oser déranger, ne pas.
C'est un métier où il faut quand même aimer aller vers les gens Et si déjà c'est contre nature d'aller vers les gens, c'est compliqué.
Oui, donc quelqu'un qui viendrait, un nouvel agent immobilier, on s'éloigne un peu de création d'agence, mais c'est hyper intéressant et il y a beaucoup de gens qui veulent être agent immobilier, qui viendraient donc pour travailler chez Deferla. Bien sûr, dans l'état d'esprit, vous l'avez dit, c'est ils veulent faire des visites, ils veulent éventuellement gagner beaucoup d'argent, mais en fait pour vous, là, on va dire, je sais pas, vous allez quantifier, mais les trois quarts du temps c'est prospecter, les trois quarts du temps c'est être sur le terrain, c'est rencontrer du monde, c'est quoi pour vous
je dis trois quarts, mais c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire ils font pas ce qu'ils veulent quand ils arrivent chez nous. Donc le matin, okay, c'est prospection, et en fait on leur dit le but du jeu, c'est d'être connu et reconnu sur son secteur d'activité. C'est que faut serrer un maximum de demain, c'est ça, pour devenir incontournable et pour être sûr que demain, s'il y a une personne qui a un projet immobilier, il pense à un de nos négos au lieu d'un autre négo de la concurrence. Donc, bien évidemment, c'est comme un homme politique quand il est en campagne, hein. Donc, du coup, quand il est en campagne, il va aller serrer un maximum de mains, normalement. C'est ce qui doit être fait. Et du coup, on leur apprend cette technique-là. Donc, ça passe par le porte-à-porte, ça passe par les commerçants, ça passe par quand ils croisent quelqu'un dans un immeuble. Ensuite, l'après-midi, ils font tout le côté administratif. Alors, au début, ils n'en ont pas beaucoup, hein. Donc, on leur dit de contacter un maximum de gens, de faire beaucoup, beaucoup de téléphones. En fait, on part du principe que leur seul baromètre de réussite au départ, c'est que leur planning soit rempli. De semaine en semaine, il faut que le planning, y ait plus de rendez-vous que la semaine précédente. Et ça va être leur baromètre de réussite, c'est une vraie projection, c'est du factuel. Donc c'est un métier, on leur dit, c'est pas un métier de bureau pour nous agents immobiliers. Il faut être tout le temps en contact des gens, il faut être dehors, il faut appeler. Et plus ils vont appeler et plus ils vont créer du rendez-vous, et le rendez-vous va créer des opportunités de mandat et donc des affaires. Mais effectivement, donc je sais que chaque maison a un petit peu sa propre manière de travailler. Et c'est en ça où nous, on est très exigeants avec nos conseillers. C'est qu'ils doivent être tout le temps dehors, ils doivent tout le temps être vus et reconnus. Il faut qu'ils apprennent à devenir incontournables parce que ça va leur permettre d'aller plus vite dans la constitution de leur fichier.
Mais en fait, pour répondre aussi à ta question par rapport à un pourcentage, c'est un métier qui est évolutif. T'arrives, t'as pas un client, c'est sûr que si tu restes à l'agence, ils font ce choix-là.
Ouais.
Mais tu restes à l'agence pour rien faire, en fait.
C'est ça.
Donc pourquoi pas? C'est pas notre façon de voir les choses. Quelqu'un qui vient chez nous, c'est pour gagner sa vie, c'est pour travailler. Donc en fait, au début, on va dire, c'est beaucoup de prospection. Et plus le temps passe, plus ce temps, il est réduit parce que justement, t'as un portefeuille de clients, que tu travailles beaucoup plus ton relationnel. Ouais. Que tu commences à avoir des mandats, le mandat appelle le mandat, les acheteurs te ramènent des appartements et ainsi de suite. Et donc, en fait, ensuite, il y a un effet boule de neige. Mais en fait, pour arriver à cet effet boule de neige, c'est pas en quelques semaines.
Non.
On n'apprend pas un métier en 3, 4, 5, 6 mois. Laetitia, elle disait tout à l'heure qu'on apprend, ce qu'on transmet à nos conseillers, c'est entreprendre une carrière, on va dire. Pour entreprendre une carrière, il faut être patient, il faut se laisser du temps pour y arriver. Mais c'est évolutif. Au début, c'est 80% du temps, c'est de la prospection. La deuxième année, c'est sûr que c'est plutôt 50-50 parce que il y a les visites, il y a l'administratif, on commence à avoir des clients. Aujourd'hui, on a certains conseillers qui n'ont plus besoin de prospecter, qui travaillent que en bouche à oreille, et ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui ont le plus de chiffres, mais ce sont aussi les plus anciens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut, c'est un métier. Donc, au début, vous commencez là, et puis ensuite, vous montez, vous montez. Plus vous avancez, plus le métier est différent. Ça ne veut pas dire qu'il est plus sympathique, parce que nous deux, quand on a commencé par de la prospection et on a tout de suite été picousés, parce que c'est un métier qui est génial.
Mais
et puis, voilà, on a la chance de vivre sur Paris et de prospecter sur Paris. Je pense qu'il y a pire. On a des agences dans le 5e, dans le 6e, dans le 7e. C'est des quartiers qui sont juste mais incroyablement beaux, incroyablement magnifiques, avec des appartements de dingue. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers au monde. En plus, on a la chance d'aller chez les gens, de rencontrer des gens qui ont des projets mais complètement différents, qui ont des vies différentes, qui ont des métiers différents. Et nous, on nous demande juste, quelque part, de nous intéresser à ces personnes pour mieux les conseiller. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est un métier qui est génial. Et en plus, on a ce côté challenge en équipe parce que il y a le résultat aussi qui est là. Donc, il faut être meilleur que les autres. Mais quand c'est très sain, c'est un challenge qui est ultra motivant. Donc en fait, il y a tout ça qui fait que pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers. Et quand je parle de prospection, moi, je parle pas de prospection désagréable. Pour moi, quand j'étais conseiller, j'adorais ça. Enfin, j'adorais aller rencontrer les gens, j'adorais revoir les mêmes personnes qui étaient contentes, qui parlaient de moi. Et donc, si on arrive à transmettre ça à nos conseillers et qu'ils ont le même amour du métier, bah en fait, après, c'est que du kiff.
Ouais. Donc c'est surtout ça, hein, le plaisir, c'est rencontrer des gens pour vous, hein, dans la prospection, tu disais Dan que t'aimais beaucoup ça, c'est parce que tu rencontres des gens, tu rencontres des nouvelles histoires, tu t'apprends à découvrir des gens, c'est ça.
Pour moi, par exemple, quand j'ai commencé ce métier, il a eu toutes les facettes. Il y a eu les facettes où je trouvais que on me dit le matin, tu vas en prospection, faut que tu rencontres le plus de gens possible. Ok, c'est cool. Et au final, quand tu parles avec les gens, tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils sont sympas. C'est-à-dire que si toi, t'es là, t'es pas agressif, tu leur dis juste, je suis agent immobilier, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Si vous voulez une estimation, même si vous voulez pas vendre, le jour où vous voulez vendre, au moins, vous aurez le prix de votre appartement, et puis ça vous permet de constituer un dossier, de savoir où vous en êtes au niveau de votre patrimoine. Et puis moi, la personne, elle se dit, mais vous êtes pas philanthrope? Non, mais sur le nombre, je sais que je vais trouver quelqu'un qui va vouloir vendre. Et puis, au moins, je vous rencontre, c'est sympa. Le fait de multiplier ces actions-là et de multiplier les rencontres, en fait, c'est super sympa, c'est très ludique. Une fois que tu commences à rentrer des appartements, tu as le côté challenge où tu te dis faut être performant, faut être meilleur que les autres, faut être meilleur que les concurrents déjà pour le rentrer, faut avoir un service qui est sympa, faut aussi toi en tant que personne arriver à te démarquer par rapport aux autres. Et donc en fait, le tout réuni de A à Z fait que pour moi, c'est un métier quand on aime rencontrer du monde, quand on aime parler et quand on aime le challenge. C'est juste génial.
Et pour un jeune négociateur, j'entends, hein, jeune personne ou alors quelqu'un qui est en reconversion, combien de temps vous diriez, parce que souvent ils ont peur un peu du mode de rémunération de l'agent immobilier à la commission, combien de temps pour vous, ce que vous éventuellement vous dites, est-ce qu'il faudrait 6 mois avant que quelqu'un puisse commencer à gagner sa vie avec ça? Est-ce que vous donnez une timeline ou est-ce que vous avez... Ça dépend beaucoup, mais...
On nous a déjà posé la question en entretien. Hein. On dit ça dépend du tout. En fait, c'est à la hauteur de l'investissement de la personne et du talent de la personne. Hein. On n'a pas de... On a des gens, en 2-3 mois, ils ont déjà des touches magnifiques. Ça dépend que... En fait, ce métier... Les rémunérations sont à la hauteur du talent et de l'investissement. Donc, il n'y a pas de fixe, quoi. C'est pas tous les mois, vous allez toucher 2000 euros et donc, du coup, voilà. Non, c'est plus, moi, je sais que mon meilleur ami, j'ai mis des années à ce qu'il veuille essayer l'immobilier. Il a commencé à 40 ans. Il était tellement déterminé qu'au bout de 2 mois, je vais en prospection avec lui. Mais il connaissait, mais j'ai dû arrêter de suivre parce qu'on n'arrêtait pas de s'arrêter, on serrait des mains. J'ai dit bon, c'est bon, je te laisse tranquille. Et en 4 mois déjà, il commençait à avoir ses premiers.
En fait, ça dépend.
C'est au profil.
Ça dépend. Alors nous, en plus, on a une politique quand on croit en quelqu'un, on sait que la personne va réussir. On est prêt à attendre. Après, c'est sûr que c'est plus sympa quand la personne a réussi tout de suite parce qu'au début, pour un jeune qui commence, il y a beaucoup de remises en question. Bon, voilà, ce qui est certain, c'est que nous, quelqu'un qui arrive sur la première année, on lui demande au moins de faire 150 000 euros hors taxes parce que chez nous, il y a les moyens pour faire ça. Okay. Et c'est vraiment, on va dire, le minimum parce que quelqu'un qui est là depuis 12 mois, il doit faire ça chez nous avec les outils qu'on donne, avec aussi, on a beaucoup de clients qui viennent spontanément. Quelqu'un qui a plus d'un an, s'il fait en tout 200 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires, c'est qu'il a fait une mauvaise année. Je parle pour une année comme ça, je parle hors Covid, parce qu'honnêtement, c'était des années un peu particulières. Mais là, pour une année comme ça, très honnêtement, quelqu'un qui a plus de 12 mois, je pense qu'il tournera plus entre 250 et 300 000 euros hors taxes. Donc, ça réussit quand même assez bien, assez vite. Mais le dénominateur commun, encore une fois, c'est le travail. C'est-à-dire que quelqu'un, au début, qui est un peu sur la retenue parce que il a des craintes, etc., si on sent qu'il est prêt à lever ses craintes, nous, on lui donnera le temps pour réussir, mais ça va mettre plus de temps forcément.
Je vais sauter sur l'occasion, mais niveau chiffre d'affaires, ça représente quoi maintenant de faire là, dans son ensemble, si c'est pas indiscret, mais
tout son.
Et en nombre de ventes aussi, si c'est possible.
On peut voir les bilans et tout ça, donc il y a rien à cacher. Nous, cette année, l'objectif, c'est de faire au moins 7 millions d'euros hors taxes, au moins. Sachant que on a eu des agences qu'on vient de créer en septembre, Donc forcément, on les intègre dans le chiffre d'affaires, dans les 8 agences, mais on sait qu'elles ne vont pas exploser. Maintenant, on a déjà des points de vente. Là, on est le 21 avril. On a déjà une agence, par exemple, qui a plus de 680 000 euros hors taxes du 1er janvier au 21 avril. On a pas mal d'agences là vraiment qui ont carburé depuis ce début d'année. On a effectivement un service de gestion qui est pas encore suffisamment développé, mais on est en plein de développement. Mais l'objectif, en tout cas sur l'immobilier d'habitation, c'est à minima de faire 7 millions cette année. On serait déçu si on faisait en dessous. Si on fait plus, tant mieux. Donc voilà, sur le nombre de ventes, j'aurais dû préparer ça. On a tous les chiffres, mais là je les ai pas en tête. Mais bon, ça en ce moment, ça, il y a vraiment un volume assez important parce qu'on fait tout type de biens. On fait pas que de l'appart familial, on fait aussi du studio, on fait du deux pièces, donc il y a du volume chez nous. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on a des biens de prestige, on a beaucoup plus de biens à plus de 2 millions d'euros. On a réussi à développer un vrai axe très fort sur le 5e, 6e et 7e qui nous a permis vraiment de relever notre image et notre positionnement. Et donc, on rayonne vraiment que ce soit sur le 15e et le 14e avec une image aussi très forte et du volume.
Le plus gros bien, c'est quoi la plus grosse vente voilà, que vous aurez fait en montant
On fait aussi de l'immobilier d'entreprise, des immeubles, mais je ne les mets pas encore dans la balance parce qu'on a signé pas mal de compromis, mais on n'a pas encore signé les actes. Et donc, tant que ce n'est pas signé, surtout sur ce pôle-là où c'est très complexe, je les intègre pas.
Et puis, il y a des grosses ventes.
On a des immeubles à 88 millions, etc., mais c'est très, très complexe. Ça a mis un montant et on n'a pas encore touché une commission là-dessus. Donc, on va pas s'avancer. En immobilier d'habitation, là, on a fait une vente il y a 2 semaines à 5,8 millions. 5,8 millions. Donc, on en fait de plus en plus des ventes dans ces
appartements.
On a de plus en plus de clients, surtout maintenant quand on a un hôtel particulier ou un bien à 5, 6, 7, 8 millions. On n'a pas de difficulté à... Si, on en a vendu un aussi à 8 millions, je vous dis une bêtise, mais c'était l'année dernière. On n'a pas de difficulté à trouver des clients. Après, souvent, c'est des produits qui sont mis en vente à des prix très élevés parce que c'est difficile à estimer et puis parce que le vendeur, à juste titre, il veut tenter un prix parce que c'est difficile de comparer un bien à un autre. Et donc, ça peut mettre un peu de temps. Donc, il y a un travail à faire. On ramène beaucoup de clients, mais après, il peut y avoir un décalage entre ce que l'acheteur est prêt à mettre et ce que le vendeur est prêt à accepter. Et donc là, c'est notre rôle vraiment qui rentre en ligne de compte parce que il y a vraiment un rôle d'intermédiaire qui rentre en ligne de compte pour une vraie négociation, pour arriver à faire en sorte que un vecteur de motivation d'un acheteur se dilue pas parce qu'il trouve que l'appartement est trop cher et qu'un vendeur se démotive pas parce qu'une offre peut lui paraître trop basse. Et donc, il faut arriver à joindre les deux bouts. Et ça, là-dessus, on n'est pas mauvais.
Et comment on arrive sur ce type de mandat, parce que ça attire, enfin il y a énormément de gens qui sont attirés par l'immobilier de luxe ou l'immobilier haut de gamme. Comment est-ce qu'on passe d'un mandat à 500 000 euros à rentrer des mandats à 5 millions, 4 millions, 8 millions, ça se fait petit à petit. Comment on fait la bascule?
Moi, je me souviens, c'est marrant, parce que quand j'avais Dan qui était en train de parler, ça me rappelait que quand on a vu, par exemple, la première agence, Avenue du Maine, bah, on a commencé avec des petits 2 pièces, des petits 3 pièces, enfin vraiment. Et en fait, on a senti une vraie différence à un moment donné où on commençait à prendre des biens de plus en plus grands et de plus en plus prestigieux. Et tout ça, bah, ça a la force forcément du travail, du bouche à oreille. Puis on investit, on a beaucoup investi sur notre communication, sur la publicité. Donc forcément, ça joue aussi beaucoup sur cette image haut de gamme. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on fait que du haut de gamme, alors qu'on explique bien, non, on fait pas de haut, on fait de la promotion et des services haut de gamme. Bien évidemment, on est très heureux de prendre des biens, des très très jolis biens, toutes les superficies qui sont sympas. Mais voilà, c'est un ressenti. On sent que de palier en palier, hein, t'es d'accord? D'année en année, on sent que bah plus on s'agrandit, plus on passe des caps, et plus on sent qu'on au début, c'était 500 000. Après, on est passé à 1 million. Ensuite, quand on a dépassé le cap des 2 millions, on s'est dit, ah, c'est sympa, franchement, on commence à passer des caps de 2 millions d'euros sur des biens. Et puis là, maintenant, quand je vois les biens à 5, 8 millions, je me dis, mais pas ça me donne le vertige parce que je garde la tête froide. Mais disons que que c'est super, oui. Non, c'est super excitant, c'est génial.
Après, peu importe les superficies, les clients, ce qu'ils aiment, c'est de travailler bien.
C'est
fait.
Ça, exactement.
Et donc, au final, le résultat amène du résultat et le résultat amène du mandat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, on a toujours eu à cœur de trouver des solutions pour chaque type de bien. Et donc, on n'a eu aucun mal à trouver une clientèle haut de gamme sur des biens de prestige. Bon, déjà, c'est vrai que c'est attirant, on ne va pas se mentir. Cette réalité qui fait que quand vous rentrez un bien de prestige, vous êtes excité, vous avez envie de le montrer, vous avez envie de trouver le bon client, vous avez envie de vous occuper de cette négociation. Donc déjà, cette envie, à partir du moment où vous la transmettez tout le temps à un client, que vous détectez que lui, il a un bien de prestige, il y a un moment, il le ressent. Et après, c'est sûr qu'avec les années, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, on a quand même des agences extrêmement bien situées. Bah forcément, on s'est travaillé ce type de produit. On a su développer sur la communication des axes pour arriver à attirer ces clients-là et surtout pour arriver à avoir du résultat sur ces clients-là. Parce que avoir des biens en vitrine, c'est sympa. Nous, ça nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est de les vendre au meilleur prix, que le vendeur soit content. Parce que pour le coup, c'est souvent des micro-marchés où les gens connaissent beaucoup de monde et ils parlent de vous. Et donc pour nous, c'est super important d'être ultra performant et qu'ils se disent bah ok, aujourd'hui j'ai compris, maintenant c'est de faire là, point barre. Et donc un client le fidélise et il nous envoie d'autres clients. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui là, depuis surtout allez, plus d'un an, vraiment tous les mois on rentre des biens de prestige, mais en nombre assez important, parce que on a ce qu'il y a sur notre site, il y a beaucoup de off-market aussi sur ce secteur là et là vraiment tous les 2-3 jours on fait une vente à plus d'un million, enfin ça devient commun entre guillemets. Alors, il y a le marché parisien, les prix qui sont élevés, qui nous aident entre guillemets dans ce volume là après il y a vraiment une volonté aussi de faire du bon travail, quoi, honnêtement.
D'ailleurs on va enchaîner un peu sur le marché parisien actuel et puis ensuite on pourra terminer sur un ou deux conseils. Comment vous le sentez, le marché actuellement à Paris? Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs? Est-ce qu'il y a moins d'acheteurs? Comment vous le sentez avec les élections?
Honnêtement, on part sur une année record. Donc et très franchement, on ne pensait pas qu'il y allait avoir ce dynamisme. En fait, depuis le mois d'octobre, autant l'année dernière, ça a été une année très compliquée pour nous. Plein de raisons. On a ouvert 2 agences, on a créé notre propre logiciel, on a recréé un site, donc on a fait plein d'investissements. Et du coup, on a eu aussi, au même moment où on a investi, on a eu un besoin en recrutement parce qu'on a ouvert des agences et on a eu une gestion financière qui a été complexe parce qu'il y a eu plein d'investissements. Et donc, tout ça a fait que ça a été une année un peu complexe en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume d'affaires. Et bizarrement, à partir de septembre, on a créé, donc il y avait tout qui était prêt, les 2 agences, le nouveau logiciel, le nouveau site. Un mois de septembre un peu mou, où on s'est dit bon là, attention, on a sorti beaucoup d'argent, ça fait un peu peur, ça donne le vertige un peu. Et puis hop, à partir du mois d'octobre, l'activité, alors je pourrais pas dire si c'est l'activité ou tout ce qu'on a mis en place qui fait que il y a eu un effet boule de neige mais explosif, qui fait que depuis le mois d'octobre, tous les mois, on fait un mois record par rapport au mois d'avant. Et donc là, vraiment, on a un volume qui est très important. Okay. On a beaucoup d'acheteurs. Alors, bizarrement, on a peu d'appels sur Internet, sur les sites type Sology, Bien d'ici, etc. Par contre, sur notre site de Ferlin, on a beaucoup, beaucoup d'appels. Okay. On est passé d'un nombre moyen de visites à 5-6 000 par mois. Le mois dernier, on était à 25 000 en l'espace de 4-5 mois. Donc bon, c'est l'un des investissements qu'on a fait sur le digital, parce qu'on a décidé aussi d'être très présent sur le digital, pas que sur les réseaux, sur vraiment le web, sur les réseaux aussi. Donc il y a tout ça qui fait qu'on arrive à avoir des clients qui viennent d'ailleurs. Et en plus, on a l'avantage d'avoir une équipe jeune. Et c'est vrai que pour les réseaux sociaux, arriver à attirer des clients à droite, à gauche, aujourd'hui, par exemple, Insta, c'est un vrai outil. Et certains groupes l'ont pas encore compris. Et je pense qu'on arrive à se différencier là-dessus. Et notamment sur des biens de prestige, quand vous pouvez localiser la pub en 2 minutes à l'autre bout du monde, en disant, on va la diffuser au Qatar, on va la diffuser à tel endroit, parce qu'on sait que c'est un appartement qui est dans le 8e, qui a plus de 10 millions, et qu'on sait qu'on peut avoir une clientèle, c'est quand même bien pratique de savoir gérer ça. Donc le marché parisien, nous, on a tendance à regarder que notre marché interne. Aujourd'hui, on le sent très bien. On le sent dynamique. Pour l'instant, l'effet des élections, bizarrement, on l'a pas vu, alors que tous les 5 ans, on le voyait, on le ressentait. Là, on le ressent pas. On fait un très bon mois d'avril. Alors, j'entends quelques négos qui me disent, là, j'ai le vendeur, il attend la décision de dimanche pour mettre en vente. Bon, ouais. Bah, si c'est au final, si ça a tendu un peu le marché, ça veut dire que le reste est encore meilleur, donc tant mieux. Je pense qu'il y a aussi eu le retour des mentalités pendant le Covid. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant le Covid, au début, nous, on questionnait souvent est-ce que les acheteurs veulent acheter en province, etc. On avait tendance à rester un peu sur nos positions en disant non, vous inquiétez pas. Au final, ça a été une réalité qu'on a vécue. On a eu moins d'acheteurs petit à petit et on avait des biens, on avait beaucoup de biens en vente et on avait peu d'acheteurs. Et ça a duré pendant un an, notamment l'année dernière, où vraiment la mentalité des gens avec le télétravail a un petit peu modifié. Et là, depuis quelques mois, eh ben, les gens se rendent compte que déjà en province, il n'y a plus rien parce que ça a été une année record en province, donc les prix augmenté, il y a beaucoup moins de produits, en tout cas c'est ce qu'on a pu constater nous, et les gens aujourd'hui reviennent à une réalité de se dire au final moi j'habite à Paris, ma résidence principale c'est Paris, et donc au final si je dois privilégier un investissement c'est sur ma RP, et donc on a tous ces acheteurs qui sont revenus, qui n'ont pas abouti sur mon projet de résidence secondaire, qui reviennent en force, et donc aujourd'hui on a un vrai dynamisme.
Ok, donc pas forcément de baisse, en tout cas pour...
Non, alors après, voilà, on entend que les taux d'intérêt augmentent un peu. Bon, très honnêtement, vous passiez de 1 à 1,20 aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que dans la tête des gens, ils entendent d'augmentation. Dans la réalité financière, c'est 10 ou 15 euros en plus par mois. Donc quand vous voulez vraiment quelque chose, sur Paris, et que vous avez une capacité financière quand même assez importante, c'est pas ça qui modifie votre projet. Je dis pas, hein, si on passe de 1 à 4, ça sera pas la même réalité. Mais aujourd'hui, c'est pas ça.
Ouais. Ok. J'enchaîne. Enfin, on finit quasiment. Il y a un article qui est sorti avec les quartiers les plus chers et moins chers de Paris. Je vous donne. Il y a les trois plus chers et les trois moins chers. Et après, vous me direz si déjà c'est ce que vous ressentez vous qui êtes sur le terrain et s'il y a d'autres quartiers les plus chers. Quartier Monet dans le 6e arrondissement, 14 830 euros du mètre carré. Quartier Odéon dans le 6e arrondissement encore, 15 330 euros par mètre carré. Et soi-disant le plus cher serait quartier Les Invalides 7e arrondissement, 15 870 euros.
Bah, c'est bien, c'est là où on a nos agences en plus. Ouais. Non, on est en plein cœur. On a une agence qui est Avenue Bosquet, une agence qui est dans le 6e. Donc oui, c'est une réalité qu'on voit. Hein. Les prix sont fous hein, pour le coup. Là, pour le coup, c'est indépendant des agences. Hein,
souvent, c'est à peu près ça.
On a l'impression que c'est les agences qui font les prix. Non, c'est que vous êtes vendeur, vous vous renseignez, vous savez que ça se vend cher, vous vendez cher. Mais oui, c'est une réalité. Mmh. Après, pareil, là-dessus, si vous pouvez, il faut y aller parce que c'est ce que vous achetez cher, vous le revendez cher. Quoi.
Ouais, c'est les meilleurs. C'est un peu les meilleurs quartiers les plus sûrs, on va dire.
Paris, vous avez les plus chers, mais les quais, vous avez Saint-Germain. C'est quand même très, très, très sympa comme quartier.
Et les trois moins chers, vous avez une idée ou
non.
Pas les trois moins
en
chers
cas, je pense pas qu'ils sont...
Alors,
ouais,
ça reste quand même bien, hein. Ouais, ça reste quand même des bons prix.
C'est le nord de Paris, mais...
18e quartier La Chapelle, 8600. Le 13e quartier Gare, 8500. Et le quartier Amérique, 8400 dans le 19e arrondissement.
Mais bon, c'est des secteurs au final où je pense que les prix
vont
exploser aussi. Après, nous, c'est vrai qu'on n'est pas des... souvent, on nous pose des questions. Est-ce que vous pensez que les prix vont monter dans tel endroit? On n'aime pas trop faire des prévisions parce qu'on n'en sait rien. On est juste là, nous, pour être des acteurs à l'instant T et être performants à l'instant T. Et si on peut conseiller nos clients, c'est de toute façon... Sur un marché qu'on connaît. Quoi.
Bah merci. On va finir avec deux questions. C'est pas des conseils pour vos clients, c'est des conseils pour ceux qui nous ont écoutés. Si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui aimerait créer son agence, à Paris ou ailleurs, hein, en province, peu importe, quel conseil vous donneriez ?
Moi déjà, souvent quand je forme mes négos, je leur dis de jamais écouter les gens qui vont essayer de conseiller, d'apporter leur avis, hein, parce que il y a un grand rappeur qui dit que on essaye toujours de vous encourager en vous décourageant. Donc je pense que c'est une très très belle phrase, parce que nous quand on a voulu ouvrir, faut voir le nombre de personnes qui nous ont dit faites pas ci, faites pas ça. Moi je pense qu'il faut écouter que soi, être sûr, avoir confiance en soi et bien s'entourer surtout aussi des gens que vous allez voilà, puis avoir un une bonne trésorerie pour prévoir au moins sur 6-7 mois, histoire d'être serein, de bien dormir. Et puis voilà, d'être sûr, d'avoir envie, d'être déterminé. Voilà, tout le monde peut y arriver, mais comme on dit, nous, c'est pas qu'on veuille faire du zèle, mais c'est vrai que nous, on a démarré de rien. Donc moi, j'ai un bac pro en poche, j'avais rien. C'est mon expérience sur le terrain qui a fait que je me suis peaufinée, que j'ai pris en expérience. Dan, toi, t'as fait un peu plus d'études que moi, quand même. Mais ce que je veux dire, faut être déterminé, faut être bien entouré. Moi, je me serais pas lancée comme ça avec n'importe qui. Voilà, je l'ai fait avec mon cher et tendre, mais parce que je sais comment il est, je sais ce qu'il vaut, et il sait ce que je vaux aussi. Mais vraiment, la chose, je dirais vraiment le plus important, faut croire en soi et faut s'écouter soi-même. Si vraiment on pense qu'on peut y arriver, il faut aller au bout. Hein.
Déjà, c'est pas mal quand même d'avoir une expérience en immobilier.
Ouais.
Honnêtement, il y a beaucoup d'agences et faut pas. Enfin, en fait, on est des fonceurs, mais on fonce à partir du moment où on sait où on va quand même. Ouais. Et je pense que c'est important d'intégrer ça, ouais. Avoir une vraie expérience, mais pas juste une expérience réussie, parce que pour réussir à transmettre, il faut déjà réussir à faire. Et je pense que c'est important, et c'est peut-être ce qui a fait la différence entre nous et les autres quand on a créé notre boutique, c'est qu'on avait une expérience réussie de conseiller, de manager. On avait même déjà une vision marketing, et je pense que c'est pas rien au final. Si vous voulez vraiment réussir, après voilà, il y a ouvrir et peut-être avoir quelque chose d'un petit peu un peu plus calme, on va dire, parce que chacun a ses propres ambitions. Maintenant, si vous voulez vraiment ouvrir quelque chose qui fonctionne, il faut déjà arriver à fonctionner soi-même.
Oh, c'est beau ça.
ça c'est beau.
On est bien, on est des vrais.
La citation du rappel, ça, franchement. Ah ouais. Bravo. Bravo. Bon, on a fait le tour. Hein. En plus, on arrive à 1 heure.
Merci à toi, c'était un plaisir.
D'avoir été là. Merci d'avoir partagé votre expérience, vos conseils. Je pense que ça va aider vraiment pas mal de monde et les aiguiller. Si vous nous écoutez, vous êtes un acheteur, un vendeur, vous avez un projet à Paris, contactez-les. C'est l'agence De Ferla Immobilier à Paris. Vous serez très bien accompagné. Je vous dis à bientôt, peut-être sur Paris pour des vidéos. Et merci à vous d'avoir écouté. C'était Parlons Immobilier avec Romain Pérez. Ciao.